10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Bonjour Sophie Cluzel.
Bonjour.
Comment protéger les plus faibles sans en faire une catégorie à part? Comment la société peut-elle faire toute leur place aux personnes handicapées et leur donner les mêmes droits dont bénéficient tout citoyen? Cette question qui concerne aujourd'hui 12 millions de Français, eh bien elle a été une des premières que s'est posée le candidat Macron en 2016. Il faut d'ailleurs le rappeler, même si aujourd'hui le chef de l'État vit sous le feu des critiques. 15 ans après l'adoption de la loi pour l'égalité des chances pour les personnes handicapées sous la présidence de Jacques Chirac, le président Macron doit annoncer mardi des mesures pour aller encore plus loin. On va en parler dès ce matin avec vous, Sophie Cluzel, parce que vous êtes en première ligne sur l'élaboration de ce plan. On peut juger une société à la manière dont elle traite les handicapés, hein, pour paraphraser la formule de l'avocat Thierry Lévy sur les prisons. Alors, deux chiffres. Malgré les 46 milliards consacrés par l'État, 2 millions de handicapés vivent encore sous le seuil de pauvreté. Qu'on ne s'y trompe pas, en parlant du projet de société inclusive pour les personnes handicapées, on parle de politique. Vous avez donc effectivement préparé ce plan. On est au cœur de l'intention première du projet macroniste, redonner à chacun le pouvoir de maîtriser son destin. Mais de l'intention à la réalité, il y a 2 ans et demi de pouvoir, 2 ans et demi de confrontation avec les réalités, les erreurs de communication, les blocages de l'administration. Vous êtes une proche du président de la République. Depuis le début, la Macronie est aujourd'hui en pleine zone de turbulence. Et le président de la République, qui réforme au pas de charge, doit montrer qu'il prend son temps alors que son quinquennat est cerné par les urgences et que les Français, à ce stade, ont du mal à le comprendre. Donc vous allez nous dire comment est-il possible de redonner également une seconde chance au macronisme. Avec moi, Nicolas Barré des Échos, pour vous interroger, Damien Fleureau de CNews. Tout d'abord, une question d'actualité. Didier Gayaguet a fini par démissionner, hein, le président de la Fédération des Sports de Glace. Il était tout à l'heure sur Europe 1 et hier, il s'exprimait déjà vivement. On écoute, on regarde.
J'ai été écouté par Madame la ministre, mais je n'ai pas été entendu. Une ministre à la recherche d'une victime sacrificielle, préférant désigner un coupable avant de mener toute enquête, ce qui, avouons-le, ne manque pas de sel.
Sophie Cluzel, bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre Didier Gayaguet, vindicte populaire, victime sacrificielle. Alors, avant de connaître les conclusions de cette enquête, dans cette affaire, est-ce que ce n'est pas tout simplement l'exemple d'une affaire, d'une justice politique, d'une justice médiatique?
Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur le mot victime. Les victimes, ce sont celles qui ont subi des agressions sexuelles. Et je pense que si la parole des victimes se libère, c'est tout à notre honneur, c'est tout à l'honneur de la société de pouvoir porter cette parole. Donc ne nous trompons pas de combat. Aujourd'hui, c'est faire toute la lumière.
A été dans son rôle.
Exactement. La ministre des Sports a été dans son rôle. C'est une première action. Il y a des enquêtes qui sont menées. Maintenant, laissons vraiment les enquêtes faire leur travail. Mais ne nous trompons pas. Les victimes, ce sont celles qui...
Il s'en va avant que l'enquête soit conclue. C'est un peu étonnant quand même, non?
Eh bien, nous verrons bien ce que l'enquête conclut. Aujourd'hui, la ministre des Sports a été dans son rôle d'alerter. Elle a justement dit qu'il fallait qu'il démissionne pour que les enquêtes soient faites correctement. C'est fait, donc maintenant nous avons libéré la parole des victimes. Et les victimes, c'est important de les entendre. Et nous pourrons y revenir parce que sur les personnes handicapées aussi, nous avons énormément de travail à faire sur la libération de la parole.
Mais avant cela, Nicolas Barré.
Alors justement, au-delà de cette affaire, plus largement, c'est peut-être la question de la protection de l'enfance qui est des plus faibles qui se pose dans notre société. Est-ce que dans ce domaine... on a failli? Est-ce qu'il y a des choses à faire, notamment à l'école, pour renforcer cette protection de l'enfance?
L'enfance, elle est au cœur de notre préoccupation. Moi, je travaille excessivement en étroite collaboration avec Adrien Taquet, hein, dont c'est la responsabilité, parce que sur la protection de l'enfance, nous avons aussi des enfants handicapés doublement vulnérables. C'est en co-responsabilité avec les départements. Et c'est tout l'enjeu, justement, de pouvoir remettre chacun dans sa responsabilité en accompagnant les uns et les autres. Les départements sont chefs de file des politiques de solidarité, y compris sur l'enfance, y compris sur le handicap. Et tout l'enjeu, justement, aujourd'hui, de notre travail, c'est de pouvoir travailler ensemble, ce qui n'était pas le cas avant. Ça sera l'enjeu dans la Conférence nationale du handicap. Nous y reviendrons sur les départements et tout le travail que je fais avec eux.
On va bien sûr y revenir. Mais la question, effectivement, de Nicolas Barré, elle est aussi plus générale. Regardez, dans toutes les sphères aujourd'hui où éclate la parole, à chaque fois, l'enfant a été victime. L'école, l'église... les sports de glace, les jeunes. Est-ce que cette société, depuis des années, n'a pas failli à protéger les enfants?
Je pense que oui. Donc nous y attaquons enfin pour pouvoir d'une part, libérer la parole. Et c'est bien tout l'enjeu de la protection de l'enfance et la politique que mène Adrien Taquet avec moi-même sur cette partie-là. C'est bien tout l'enjeu aussi de pouvoir protéger ces victimes. Et puis c'est tout l'enjeu de pouvoir enfin mettre les alertes, les niveaux d'alerte suffisants et nécessaires pour qu'on puisse agir.
Il y a un problème au niveau de l'encadrement, vous diriez, que ce soit des enseignants ou des encadrants sportifs qui n'ont pas peut-être été suffisamment sensibilisés à ces questions ?
Il y a un problème de formation, c'est indéniable. Un problème de formation de toute la communauté éducative au sens large du terme. C'est bien l'enjeu de pouvoir former au recueil de la parole, pouvoir tirer tout de suite, savoir qui alerter aussi, parce que parfois ils sont laissés seuls à eux-mêmes, ces personnes qui pensent qu'il y a une fragilité ou qu'il y a une alerte ou un harcèlement. C'est tout l'enjeu de pouvoir mettre en réseau toute cette chaîne de communication et cette chaîne d'alerte.
Vous l'évoquiez, Damien Fleurot.
Sophie Cluzel, il y a un sujet tabou, les agressions sexuelles de personnes en situation de handicap. Il y a eu une table ronde à ce sujet en décembre 2018 au Sénat. Que faites-vous pour combattre ce phénomène? On le sait, donc les femmes notamment sont beaucoup plus victimes quand elles sont en situation de handicap de ce type d'agression sexuelle.
Comment libérer la parole?
Eh bien, on travaille ensemble, puisqu'au Sénat, elle a été votée à l'unanimité, cette résolution que je suis venue défendre, parce que justement, c'est l'affaire de tous. Alors là, c'est transversal, il n'y a pas de sujet politique là-dessus. Il faut qu'on libère cette parole. Les femmes autistes, par exemple, elles sont 5 fois plus victimes d'agressions. Et pourtant, on n'entend pas leurs paroles. Donc c'est le plan de formation de la réception de la parole auprès de la gendarmerie, auprès de la police, auprès des agents de justice.
Pour, vous entendez la parole, mais pour lutter justement contre ces faits qui interviennent souvent dans le milieu familial ou dans le milieu médical de la part du personnel soignant aussi.
Nous avons développé le numéro justement spécifique pour les urgences. Nous formons les écoutants à cette problématique de savoir aller chercher la parole d'une personne déficiente intellectuelle, déficiente psychique. Formation, information.
Formation du personnel soignant.
Formation du personnel soignant, indispensable, parce que beaucoup se passe à la maison, mais beaucoup aussi dans les établissements médico-sociaux.
C'est un fléau.
Je pense que les personnes handicapées mentales, handicapées psychiques, autistes, sont des vraies proies pour des prédateurs sexuels, parce qu'elles sont empêchées dans leur corps, empêchées dans la façon dont elle traite le problème, et donc il nous faut accompagner ça. Mais encore une fois, c'était un sujet qui était tabou. Nous le prenons à bras le corps, donc nous allons travailler avec les associations, notamment qui les accompagnent,
et
pour améliorer l'accompagnement.
Vous êtes en mesure de quantifier le problème. On sait aussi que,
la
libération de la parole, ça passe aussi par la médiatisation, par le recensement de ces faits.
Et là, il y a moins de paroles, en fait. On entend moins de personnes qui disent... Je dénonce.
Si, il y a beaucoup de paroles. Si, il y a beaucoup de paroles. Mais ce n'est pas le fait de les médiatiser, c'est le fait de les travailler au plus près, après, de là où elles sont.
Et
de les recenser, bien sûr.
Et donc vous êtes capable de quantifier ce...
Pas aujourd'hui, puisqu'on la libère. Mais c'est bien l'enjeu de ce numéro pour recueillir la parole. C'est bien l'enjeu aussi qu'il soit 100% accessible. Le 3919 va être 100% accessible aux personnes qui ont des problèmes de surdité, qui ont des problèmes d'élocution, qui ont des problèmes de communication. Parce que si on n'est pas là dans ce recueil, avec cette accessibilité universelle de pouvoir recueillir cette parole, on ne pourra pas agir.
Alors mardi, à l'Élysée, le président de la République va prononcer donc un discours... important au cœur de la conférence du handicap. Le symbole est là, 15 ans après donc l'adoption en 2005 sous la présidence de Jacques Chirac de la grande loi sur donc l'accession aux droits pour les personnes handicapées. On va bien sûr l'évoquer, mais vous avez décidé de traiter aussi un autre sujet tabou, celui des assistants sexuels, celui de la vie, du droit à la vie intime et sexuelle des personnes handicapées. Comment peut-on concilier justement toutes les contraintes qui existent dans cet univers avec le droit à la vie intime et sexuelle que la société a refusé jusqu'à présent aux personnes handicapées?
C'est tout l'enjeu de la façon dont je mène ma politique. C'est de remettre les personnes handicapées en pleine citoyenneté, dans le respect et dans la dignité. C'est pour ça que dès que je suis arrivée, j'ai voulu qu'elles, de nouveau, elles aient le droit de vote, les majeurs protégés sous tutelle. On disait que le handicap était un empêchement à voter. C'était les considérer comme des sous-citoyens. Après, de la même façon, j'ai fait des droits à vie pour les personnes. Ne plus avoir à reprouver sans arrêt son handicap, eh bien, c'était vraiment aussi remettre la personne. Imaginez-vous que les personnes devaient tous les 3 ans aller voir le médecin et dire « Je suis toujours trisomique, aveugle, doublement amputée. » Voilà, ça c'est fini. C'est des droits à vie. Ils ne sont pas encore assez bien appliqués partout. Et c'est tout l'enjeu de mobiliser les départements pour enfin qu'ils soient appliqués. C'est aussi le droit à une parentalité, c'est aussi le droit à une vie intime, affective et sexuelle. Alors oui, c'était tabou dans notre société. C'est pour ça que j'ai saisi le professeur Delfraissy, le président du comité national de l'éthique.
Qui avait refusé à l'époque.
Ils avaient, oui, en 2013.
En 2012, ils ont déjà été saisis par Roselyne Bachelot à l'époque. Et ils avaient émis un avis en disant on ne veut pas se prononcer pour l'instant, c'est trop compliqué.
Oui, enfin, ça revenait à émettre un avis négatif sur les aidants sexuels, il faut être clair.
Bien sûr. Donc, 9 ans après, 10 ans après presque, je pense que la société a mûri. Les personnes nous le redisent haut et fort, parce qu'on a libéré aussi la personne et le dire « je veux ». C'est ça mon ambition, c'est de laisser dire les personnes « je veux ». Elles nous ont dit « nous voulons, nous souhaitons pouvoir être accompagnées dans notre vie intime et sexuelle ».
Alors qu'est-ce que vous préconisez ?
Je ne préconise rien, puisque je saisis le professeur Delfraissy.
Oui, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'il
Laissons les débats faire, il va y avoir des débats citoyens, ça va nous permettre de faire aussi... prendre en compte les désirs et les attentes des personnes, des associations qui les accompagnent. C'est un vrai sujet de société. Allons jusqu'au bout. Et puis, moi, je suis très favorable à ce qu'on puisse accompagner cette vie intime, affective et sexuelle.
Mais pour être clair, à l'époque, l'avis du Conseil national d'éthique, c'était de dire ça reviendrait, si on autorisait les aidants sexuels, à autoriser une forme de prostitution. C'était ça que ça... Et c'est pour cette raison qu'ils avaient dit non. Comment est-ce que vous vous positionnez sur ça, sur ce sujet ?
Est-ce que vous imaginez que j'ai envie d'ouvrir un réseau de prostitution ? Enfin, cette question, je pense, elle est totalement ridicule parce qu'elle est à côté de la plaque. Ces assistants de vie sexuelle, ils existent déjà en Belgique, dans les Pays-Bas, en Suisse. Allons voir comment ils ont été formés, ces personnes. De toute façon, quoi qu'il se passe, ça nous fera faire un bond en avant colossal dans la bientraitance des personnes, dans le recueil de leurs désirs, de leurs attentes, dans la façon de les regarder différemment. Non plus comme des objets de soins, mais bien comme des sujets de droit, des sujets qui ont envie d'avoir une pleine citoyenneté, comme tout un chacun, y compris dans la vie intime, affective et sexuelle.
On se retrouve dans quelques instants avec Sophie Cluzel pour savoir comment, avec le monde des handicapés, on est tous concernés, tous mobilisés.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et bien sûr, notre invitée, Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées, à la veille donc de la Conférence nationale du handicap et du discours et des annonces du président Macron que nous allons donc évoquer aujourd'hui en avant-première. Tout d'abord, on va écouter le maire Yann Jondeau, élu maire donc au Morbihan, que vous connaissez certainement, le seul maire en fauteuil roulant. Mais il a choisi de ne pas se représenter. Il vous interpelle. On écoute, on regarde.
Est-ce que demain, le gouvernement nommera vraiment une ministre de l'accessibilité ? Ça, c'est important. Vous êtes secrétaire d'État et je trouve que c'est vraiment important.
Alors, l'accessibilité, effectivement, ça reste un sujet majeur. D'ailleurs, si on regarde les sondages, 57% des Français, valides et non valides, estiment qu'ils ont des problèmes dans leur vie quotidienne d'accessibilité. De nombreux lieux publics, des gares, des stations de métro, etc., sont difficilement accessibles. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change vraiment et pas dans 20 ans ?
Déjà, je salue Yann Jondeau, que j'ai nommé ambassadeur de l'accessibilité dans sa ville de Langoualan. Il a travaillé sur la qualité d'usage, c'est-à-dire comment on rend réel un parcours pour aller d'un lieu à l'autre et non pas être dogmatique en disant « il faut que ce bâtiment soit 100% accessible ». Si on ne réfléchit pas autour, au parcours, eh bien on a raté.
Mais voilà, il dit « j'arrête ».
On a raté. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut ? Pendant 30 ans, on a mis la poussière sous le tapis. On a fait cette grande loi de 2005. En faisant des droits un peu incantatoires, en disant « il faut que tout soit accessible dans 10 ans ». Au bout de 10 ans, on n'y était pas arrivé. On a encore reculé.
Moi, elle était incantatoire, la loi de président Chirac ?
Sur l'accessibilité, oui. Sur l'accessibilité, oui. Puisqu'on disait qu'il fallait que dans 10 ans,
tout soit...
Donc des
belles paroles, mais rien derrière.
C'est pas que des belles paroles. C'est un fondement même qui a... c'est la loi fondatrice d'un changement de paradigme. Mais sur l'accessibilité... Tout le monde a été incantatoire en disant « il faut que dans 10 ans, tout soit fait ». Au bout de 10 ans, ce n'était pas fait. On a reculé 3 ans, 6 ans, 9 ans. Aujourd'hui, force est de constater que quand une ville s'en empare, ça marche. C'est bien pour ça que je veux accompagner les villes. C'est bien pour ça qu'on va mettre, si vous voulez, des aides, des appuis, des ambassadeurs en service civique qui vont venir appuyer le cheminement, tout simplement, pour que les commerçants... Et ça se passe déjà. Aujourd'hui, regardez le nombre de commerçants qui ont des boutons pour pouvoir rendre ce service,
mais de commerçants,
qui se prêtent.
Oui, mais regardez dans la capitale, même ici, à Paris, vous avez beaucoup de stations de métro, de gares qui sont difficiles.
Une fois,
le métro, on ne va pas se lâcher. Les stations de métro, c'est 5% du métro accessible. Mais la voirie, parlons de la voirie. La voirie à Paris, c'est dans un état déplorable. Alors oui, ça marche mieux peut-être pour le vélo. Mais alors, permettez-moi de dire que pendant un an, les personnes handicapées, elles ont été assignées à résidence à Paris, parce qu'elles ne pouvaient pas sortir compte tenu des travaux qu'il y avait sur les trottoirs, et c'est pas mieux aujourd'hui.
Donc là, vous dénoncez la maire de Paris, Anne Hidalgo ?
Je dénonce les maires qui ne font rien. Je dénonce les maires dans leur globalité.
À part Paris,
revanche,
d'autres villes également que
revanche,
vous dénoncez regarde, ou,
En revanche, regardez par exemple à Évreux, une petite ville qui a décidé d'être 100% accessible. Elle a eu l'accessibilité award. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle s'en est emparée parce que c'est du gagnant-gagnant. Quand vous travaillez pour l'accessibilité, vous travaillez pour les personnes âgées, vous travaillez pour les familles nombreuses, vous faites du bien commun pour tous et tout le monde peut circuler librement. Donc il faut que, et c'est pour ça que j'ai besoin des associations comme par exemple l'APF France Handicap et dans cette construction-là maintenant, travaillons en qualité d'usage. Aidons les maires à construire des parcours. On hérite d'un pays très vieux qui n'est pas accessible dans des villes parfois historiques. Eh bien, il faut qu'on les accompagne.
Vous demandez aux principaux candidats, et pratiquement évidemment à tous les candidats aux mairies, de travailler essentiellement sur ce sujet.
C'est un levier majeur.
Le
maire, il est au quotidien celui qui peut changer la vie des Français. Que ça soit dans l'accessibilité des voiries, que ça soit dans l'accessibilité dans les crèches, dans les centres de loisirs.
Donc objectif, un ambassadeur de l'accessibilité par commune ? Comme pour la sécurité routière, pas par commune, ça ferait trop de
contrats de service civique. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple, Yann Jondot ? Il a pris son département du Finistère et il porte la bonne parole, il forme les maires. Et quand les maires s'en emparent, ça fonctionne excessivement bien. Pourquoi ? Parce que le maire, c'est le pilier du changement quotidien de la vie des personnes. Mais pas que pour l'accessibilité, l'accès aux crèches, aux centres de loisirs, en tant qu'employeur aussi. Donc c'est la gestion du quotidien de la vie des personnes handicapées. Et je dis aux maires, emparez-vous dans vos programmes de ce vrai beau sujet qui est la mobilité, l'accès à tous, parce que ça servira tout le monde comme d'habitude.
Alors on continue sur les avancées. Damien Fleurot.
Oui, Sophie Cluzel. Donc mardi, aux côtés du président de la République, il y aura cette convention, cette conférence nationale du handicap qui se tient avec un peu de retard. On dénonçait d'ailleurs des associations. Elle était prévue, cette conférence, l'année dernière. Qu'est-ce qu'il faut attendre du discours, des annonces du président de la République ? Un changement de méthode, un changement de regard, peut-être sur l'école, avec un accueil plus important encore d'enfants en situation de handicap, les autistes par exemple ?
Alors ce qu'on en attend d'abord, c'est que cette conférence, elle est au milieu du quinquennat. Ce qui va nous engager pour l'exécution derrière, hein, ce qui est très différent, parce qu'au préalable, elles étaient en fin de quinquennat, elles n'engageaient que ceux qui tenaient leurs promesses ou qui les émettaient. Donc là, elle est ouverte surtout à l'ensemble de la société civile. Près de 500 personnes, parce que tout le monde est concerné, tout le monde est mobilisé, vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Des chefs d'entreprise, et je salue ici la présence de Christian Sanchez, qui s'est emparé de cette mobilisation des entreprises. Plus de 130 entreprises qui ont signé un manifeste pour oser l'emploi et pratiquement changer la donne sur l'emploi. C'est un sujet majeur. Il y aura plus de 10 ministres. Et je salue la présence de Frédéric Vidal ici, parce que sur la recherche, sur l'enseignement supérieur, nous allons aussi avoir des mesures très fortes pour pouvoir faire monter en qualification.
Donc vous dites que c'est un projet politique global
exactement.
Qui sera présenté mardi.
Et c'est le changement drastique de ce gouvernement. Je suis rattachée auprès du Premier ministre. Parce que le handicap, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de Jean-Michel Blanquer pour l'école, on y reviendra, de Frédéric Vidal pour l'enseignement supérieur, de Muriel Pénicaud pour l'emploi, et j'en passe.
Et sur l'école, par exemple.
Et les ministres seront présents.
La question
de la Fleurot
portait sur l'autisme également. Est-ce qu'il y a un changement de méthode
Alors,
sur l'autisme ?
Sur l'école, le président de la République en a fait un axe fort. C'est comme ça qu'on va changer la donne pour se vivre ensemble. C'est apprendre sur les mêmes bancs de l'école pour après travailler sur les mêmes bancs dans les entreprises. C'est ça notre enjeu. Nous avons déjà fait quelque chose de très très important, le grand service public de l'école inclusive. Je voudrais quand même redire aujourd'hui que c'est plus de 20% d'enfants scolarisés, 380 000 élèves scolarisés. La moitié d'entre eux ont besoin d'accompagnants, d'autres ont besoin d'adaptations pédagogiques, d'où il faut absolument que nous travaillions sur la formation des enseignants et leur accompagnement, l'outillage. On met un par exemple... Cap vers l'école inclusive, c'est une grande plateforme numérique avec toutes les adaptations possibles qui est en place et qui se développe. Mais nous avons sur ce problème d'accompagnant une volonté aussi, et qui s'est déjà traduit dans les faits, plus aucun accompagnant est en contrat aidé. Aucun gouvernement ne l'avait fait. Ils sont en contrat éducation nationale.
Ils ont gagné ou ils ont perdu
Ils sont en contrat d'achat. Bien sûr qu'ils ont gagné. Quand vous avez enfin un CDD de 3 ans et que vous allez avoir un CDI, bien sûr qu'on y gagne, plutôt qu'un contrat précaire qui s'arrêtait en milieu d'année. Et c'est du gagnant-gagnant pour les élèves scolarisés. Plus aucune rupture d'accompagnement sur le temps scolaire, sur tout ce parcours scolaire. Donc ce qu'on veut, c'est créer des parcours de qualité. Parce que notre enjeu majeur, il est d'apprendre ensemble pour monter en qualification les personnes en situation de handicap,
Nicolas
pour leur accès à l'emploi.
Évoque le monde du travail. Juste une question justement par rapport à ce principe maintenant de l'école et la société inclusive. Qu'est-ce que vous faites des enfants, des jeunes qui ne peuvent pas être scolarisés? Vous focalisez entièrement l'énergie sur l'inclusion à l'école et ceux qui ne peuvent pas l'être, ni
nous
dans l'école, ni dans l'entreprise.
Nous focalisons sur toutes les situations de handicap. Permettez-moi de rappeler que sur ces 12 millions de personnes handicapées, la variété de handicap est extrêmement importante. Des déficiences sensorielles, des déficiences mentales, psychiques, autisme, personnes à mobilité réduite, sensorielle. C'est une variation de handicap. Il n'est pas question de laisser quelqu'un au bord de la route. Donc, nous devons accompagner encore plus ceux qui ont vraiment des besoins, comme des autistes sévères, qui ont des troubles du comportement, parce qu'on ne s'en est pas occupé assez tôt, comme du polyhandicap.
Justement.
Et ces enfants polyhandicapés autistes, ils ont droit aussi à de l'apprentissage. Et c'est ce que nous mettons, plus d'apprentissage aussi dans les établissements médico-sociaux.
Justement, le principe et les réalités. Nicolas Barré.
La loi a fixé depuis un moment un objectif de 6% de travailleurs handicapés dans les entreprises de plus de 20 salariés. Dans la vraie vie, on est plutôt autour de 3,5%. Pourquoi ce plafond de verre?
Parce que c'était un quota qui date de 1987. D'autres pays d'Europe ont choisi de ne pas avoir des quotas. Et force est de constater que partout en Europe, on est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on n'est pas bon. On n'est pas bon, il faut
le
dire.
Donc le quota, finalement, ce n'est pas un bon système.
C'est un système indispensable pour changer les choses, sur lequel on peut s'appuyer, mais il faut faire plus. Et il faut accompagner les entreprises. C'est tout l'enjeu de l'emploi accompagné. Par exemple, sur le handicap psychique. Si une personne a un handicap psychique, qu'elle rentre dans l'entreprise, qu'elle n'a pas un service d'emploi accompagné à côté d'elle, quand elle aura une baisse d'activité due à son handicap, l'entreprise sera excessivement fragilisée et souvent ça va vers de la désinsertion professionnelle ou un licenciement. C'est ce qu'on ne veut plus. Donc on développe l'emploi accompagné, on développe l'apprentissage et on bonifie à chaque fois la problématique du handicap. On augmente le compte formation spécifiquement pour les personnes handicapées. Alors, 90 000 travailleurs handicapés sont partis en formation, ceux qui étaient en demandeur d'emploi. Le maître mot, c'est qualification, accompagnement.
Sophie Cluzel, on vous entend effectivement avec la mobilisation générale, avec tout ce que vous expliquez, mais à l'instant même, on vient de parler justement des enjeux donc des quotas intégrés dans les entreprises. Mais pourquoi l'éducation nationale et la gendarmerie sont exonérés?
Ils ne sont plus exonérés. On est le premier gouvernement, justement, à ce que le ministère de l'Éducation nationale...
Donc c'est tout récent.
Depuis le début du gouvernement, on a dit que c'était intolérable que le
Donc
ministère de l'Éducation...
Donc ils sont aussi soumis au 6%
également. Ils sont soumis aussi au 6%. Ils sont soumis de la même façon. C'était encore une exception.
Ça a été difficile.
Au prétexte que, justement, comme ils embauchaient des accompagnants pour les enfants handicapés, ils étaient exemptés de leurs obligations. C'est fini, ça. C'est comme ça qu'on travaille. C'est tout le monde, quand je dis tous concernés, tous mobilisés, c'est que concrètement, on change la donne, qu'il n'y ait plus d'exception.
On se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de la société inclusive avec Sophie Cluzel.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et on se retrouve avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. C'est une question d'union nationale, ce sujet, qui est difficile à porter, qui n'intéresse pas tout le monde. Pour vous, c'est une question d'union nationale?
C'est un marqueur sociétal de l'engagement de la société à changer la donne pour les personnes handicapées. Oui, c'est un sujet d'union nationale, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que ça concerne tout le monde. C'est un Français sur cinq. Tout le monde a dans sa famille un proche en situation de handicap. Tout le monde a envie que ça change.
Comment cette union nationale va se matérialiser cette semaine, par exemple?
Eh bien, cette conférence nationale du handicap, elle va réunir beaucoup de monde. D'abord, elle va être introduite par Claude Chirac, parce que je pense que c'est important de pouvoir remettre justement les fondements de cette loi de 2005. Participation, égalité des chances, citoyenneté. Elle va être aussi suivie en échange avec beaucoup de ministres qui s'engagent. C'est ça, l'Union nationale. Mais ce n'est pas que, parce que dans la salle, il y aura des citoyens, des chefs d'entreprise, je le dis, les médias qui s'engagent avec la signature qu'ils ont fait avec la charte CSA pour justement changer la donne sur la place des personnes handicapées dans les médias. Et il y aura les élus, notamment les départements et bien sûr les associations.
Alors, l'idéal de la société inclusive que vous nous déroulez, en fait, tout simplement, est percuté par le dogme de l'administration qui est toujours là. L'association, écoutez cette histoire, l'association Les Papillons, que l'on connaît, qui met des boîtes aux lettres dans les écoles pour que les enfants victimes de maltraitance puissent tout simplement s'exprimer par écrit parce que leur parole est bloquée. Eh bien, cette association est bloquée par les inspecteurs d'académie qui obligent les dirigeants d'établissements à retirer ces boîtes tout simplement parce qu'elles ne rentrent pas dans les cases de l'administration. Est-ce que ça, ce n'est pas un exemple qui vient contredire votre volontarisme, les bonnes décisions et... les bonnes intentions?
C'est exactement ce sur lequel je me bats tous les jours. c'est comment on passe justement d'une volonté politique, d'un chemin qui est bien tracé à son exécution au plus près du territoire. Sur l'école inclusive, c'est pareil. Les deux ministres, moi-même et Jean-Michel Blanquer, nous avons donné des instructions. Après, pour que ça se répercute, eh bien, on a encore des ergothérapeutes, des psychomotriciens qui ont du mal à rentrer dans les écoles. C'est ça, c'est au quotidien. C'est pour ça que la deuxième partie de ce quinquennat, je serai dans les territoires nuit et jour pour pouvoir s'assurer.
Et forcer la porte des administrations et des écoles. C'est pas forcer la porte,
c'est convaincre
que inspecteurs d'académie
y a un cadre qui est fixé. Il y a un cadre qui est fixé. Il faut qu'on y aille. On fait parler des mondes différents. Un monde de l'éducation nationale, le monde des associations, le monde du médico-social. Maintenant, il faut qu'on y aille vraiment. Le cadre est posé. Il faut qu'on exécute.
Damien Fleurot.
Oui, Sophie Cluzel, je voulais qu'on commente ensemble un sondage publié cette semaine dans les colonnes du quotidien Le Figaro, Odoxa, qui interrogeait les Français sur le bilan de l'action du président de la République 1000 jours après son arrivée à l'Élysée. Et le constat est sévère. Hein, 64% des Français jugent que Emmanuel Macron a un mauvais bilan. Alors vous faites partie sans doute des 6% qui le jugent très bon. Mais comment expliquez-vous cette fracture? Est-ce qu'il est encore possible pour le président de remonter la pente d'ici 2022?
Là, je pense qu'il nous faut faire un tout petit retour en arrière, parce que si on regarde l'ensemble des autres quinquennats, à mi-mandat, Claude Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, 25%, 15% à mi-mandat.
Donc quand vous observez, vous êtes plutôt optimiste.
Donc je pense que c'est l'essence même de la Ve République. Le président cristallise toutes les attentes et forcément toutes les aspirations et toutes les désillusions. Donc c'est un mouvement qui est constant dans la Ve République. Donc je pense qu'il ne faut pas trop dramatiser cette situation.
Et pourtant,
en revanche, il faut l'entendre.
Cette crise, cette polémique au cœur de votre majorité présidentielle cette semaine, avec ce rejet de l'amendement par des députés La République En Marche sur l'allongement du congé en cas de décès d'un enfant mineur. Là aussi, un sondage Odoxa estime que les Français jugent cette séquence politiquement grave, très importante. Elle va marquer la fin du quinquennat, sans aucun doute.
Je pense que cette séquence, en effet, elle est ratée, on l'a dit. La ministre Muriel Pénicaud...
Vous craignez la fracture ?
La ministre a tout de suite réagi. On est en train de travailler. Non, je ne crains pas la fracture là-dessus. Je pense que là, cette polémique, elle a été levée. Maintenant, nous y travaillons. Au contraire.
Vous avez décidé qu'elle a été levée, mais qu'est-ce que vous en savez au fond ? Regardez, Adrien Quatennens, lui, il enfonce le clou politique. Hein. Député de la France Insoumise, il dit « Les marcheurs sont des droïdes avec une calculatrice à la place du cœur », dit-il dans le point. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je lui réponds que je pense que ce n'est pas du tout les députés que je connais. Les députés, rappelons-nous, les députés, il y a 2 ans et demi, ils n'étaient pas députés. C'était des hommes et des femmes de la société civile. C'était des entrepreneurs, c'était des enseignants, des établissements médico-sociaux. Donc je ne pense que ça ne caractérise absolument pas. Les députés En Marche sont des députés qui sont issus des citoyens. Ils ont face à eux des députés qui sont au contraire des politiques. Et c'est plutôt eux qui sont hors sol, si vous voulez mon avis. Parce qu'il y a 15 ans, ils étaient là. Il y a 15 ans, ils seront encore là. Tandis que les députés de la majorité, eux, ce sont des gens qui sont totalement conscients des problèmes des Français. Ils sont rentrés en politique pour justement changer ça. Ils sont issus, ils ne sont absolument pas hors sol. Et c'est avec eux que je travaille nuit et jour, depuis 2 ans et demi, sur tous les sujets. Et de façon totalement transverse sur tous les sujets. Donc non, je m'inscris en faux sur cette
vision-là
des députés.
Mais ils disent, ces mêmes députés qui viennent de la société civile, d'ailleurs dont certains partent maintenant assez régulièrement, hein, encore 2 cette semaine, en dénonçant le pouvoir verrouillé, en dénonçant la verticalité, l'impossibilité de faire passer les sujets. Ces députés-là, tout simplement, ils disent, mais au fond, le président Macron, il préfère les maires. Quand il a un problème à régler, il fait un déjeuner avec les maires. Quand il doit sortir d'un grand débat, d'une crise, il fait le tour de France avec les maires. Et nous, qui l'avons porté au pouvoir, et nous qui nous défendons en permanence et qui nous faisons caillasser nos permanences, voilà ce qu'ils disent. Ils ont le sentiment que vous, l'exécutif, vous ne les considérez pas.
Je pense qu'on les considère extrêmement, parce qu'on travaille nuit et jour avec eux. On les associe complètement à nos travaux et vice-versa. Je pense que c'est justement pour ça que le président les reçoit mardi soir, pour justement leur redire ce positionnement. Je pense qu'au contraire, ils font partie complètement de cette construction qu'on est en train de faire. Et moi, je dis, on a besoin d'eux, bien sûr, parce qu'ils sont l'essence même. Et sans arrêt, je missionne des députés. D'ailleurs, j'ai missionné Thierry Michel, c'est Karine Radian ici présente. Elle n'est pas députée, mais elle a travaillé avec lui. Parce que c'est avec les députés qu'on peut travailler correctement quand on a des missions d'intérêt général. Parce qu'ils ont ce sens de l'intérêt général.
Nicolas Barré.
Cette semaine, le conseil d'administration d'Engie, grande entreprise du CAC 40, a décidé de se séparer de sa directrice générale Isabelle Kocher. Alors, au-delà des raisons de fond qui ont conduit à cette décision, j'avais envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, en France, en 2020, c'est un handicap quand on est une femme pour accéder à certaines fonctions éminentes ?
J'ai envie de vous renvoyer votre question. On aura réussi la parité femmes-hommes quand vous ne me poserez plus cette question. Voilà, c'est tout, tout simplement.
Ça veut dire quoi ? Reste difficile.
À part la pirouette, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas un problème. Mais ce n'est pas une pirouette. Mais pourquoi il y aurait un problème ? Pourquoi est-ce qu'on cristallise sur le fait que ce soit une femme ? C'est avant tout, et vous l'avez dit, au-delà des questions de fond. Mais c'est bien les questions de fond qui nous intéressent. Donc voilà, c'est tout. Je dis que, franchement, pourquoi nous nous posons encore des questions, savoir si c'est une femme ou un homme ?
Peut-être tout simplement parce qu'il y a moins de femmes
peut-être.
À ces fonctions-là.
Peut-être. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une parité dans les chefs d'entreprise. Mais on ne va pas, au prétexte que c'est une femme, se poser de la question de savoir est-ce qu'il faut qu'elle reste ou est-ce qu'il faut qu'elle parte. C'est ça, la vraie égalité femme-homme.
Donc c'est au nom d'une parité réussie qu'elle a été limogée, c'est ça que vous dites ?
Non, pas du tout. C'est le contraire que je dis. C'est exactement le contraire. Je dis, elle a été limogée, comme vous le dites
parce
vous-même,
pour ses résultats,
pour ses problèmes de fond.
Enfin, mais du coup, la stratégie choisie, peut-être un verdissement de son entreprise, de l'entreprise Engie, n'était pas forcément la bonne, elle a été trop vite, trop tôt.
Je pense que ça fait partie d'un process, d'un conseil d'administration qui a choisi de changer de direction. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous remettez la question de la femme. Je pense que là, ce n'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est une stratégie, des résultats et des conséquences qui en sont tirées.
Non, la question, c'était est-ce que vous déplorez le fait qu'il n'y ait pas davantage de femmes à
des
fonctions éminentes ? C'était ça, la question.
Évidemment que je le déplore. Évidemment que je le déplore. Et que la parité et tout ce qui est fait pour l'égalité femmes-hommes, qui est aussi un enjeu colossal de justice sociale, bien sûr, mais je suis bien plus intéressée au niveau de la justice sociale de pouvoir travailler sur l'égalité des salaires, surtout, avant tout. Cette équation qui n'est absolument pas respectée, 20% en moyenne, qui se répercute dans les retraites, 30% de différence, là oui. Voilà,
Est-ce qu'il n'y a pas non plus effectivement un progrès à faire concernant la nomination à des postes de haut niveau de personnes justement en situation de handicap ?
Ah, bah bien sûr.
Est-ce que là, quel est aussi effectivement, comme vous interpellez tout à l'heure cet élu local, qui d'ailleurs ne va pas se représenter, quelle est la marge de progression ? Qu'est-ce que vous souhaitez et qu'est-ce que vous regrettez ?
Moi, je souhaite que les personnes déjà osent s'engager. C'était tout l'enjeu de l'appel que j'ai fait récemment dans la presse en disant « osez vous engager ». 6% de personnes en situation de handicap, en âge justement d'être élues. Aujourd'hui, force est de constater que ça soit au niveau de la représentation nationale, nous n'avons pas de personnes en situation de handicap à la hauteur de la diversité. La complexité, c'est que 80% des handicaps sont invisibles. Donc peut-être que nous en avons beaucoup plus. Eh bien, moi, je dis que nous avons encore besoin d'avoir des rôles modèles, excusez-moi, mais d'avoir justement un engagement qui le dit haut et fort. Donc, je dis, osez vous engager et allez sur cette parité ou cette diversité de représentation
dans
les listes électorales.
Mais les rôles modèles dans votre famille politique aussi, au sein du gouvernement, pourquoi pas ?
Mais bien sûr, mais attendez, moi, j'ai fait un appel partout. Que ça soit quel que soit le parti politique, là on est encore loin du compte. Ça a été tout l'objet de mon appel à oser la diversité, oser vous engager aussi pour les personnes. Depuis tellement de temps, on leur a parlé d'incompétence, de déficience, d'incapacité, d'invalidité. Eh bien, changeons de sémantique en disant oser. Vous êtes capable, parfois autrement capable. Allez-y, osez vous engager.
Ça veut dire que dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'économie, vous voyez
partout.
Aujourd'hui des chefs d'entreprise qui, par exemple, utilisent entre guillemets, et décide de pouvoir profiter justement de ce que peuvent apporter des personnes en situation de handicap pour leur propre entreprise.
Bien
pas
sûr,
non plus
bien
uniquement
sûr que c'est un atout, c'est
quota.
Un atout cette diversité sur tous les types de handicap. Je vais vous donner un exemple, des exemples très concrets. Un concessionnaire de voitures de luxe qui embauche à l'accueil une jeune femme trisomique. Sacré pari. En 6 mois, il a fait baisser son taux de 30% de mécontentement. Un patron qui embauche tout simplement une personne autiste parce qu'il va lui résoudre des problèmes que les autres, les neurotypiques, comme les appellent les autistes, ne sont pas en capacité de. Des personnes visibles à l'accueil d'une entreprise qui embauche des personnes en situation de handicap. Tout simplement, on change le regard, on voit la capacité des personnes avant tout, on voit cette diversité et c'est un atout pour les entreprises. Les jeunes cherchent un vrai esprit éthique dans les entreprises. Quand on a une politique qui affiche la diversité dans tous les domaines, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du patron, du conseil d'administration, etc., et qu'on voit cette diversité, on peut changer la donne.
Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes dans le monde associatif lié justement aux personnes en situation de handicap, notamment avec l'établissement du revenu donc, universel d'activité, avec le niveau des retraites qui pourrait baisser, s'inquiète-t-elle. À droite, on dit on en parle beaucoup, on ne fait pas beaucoup. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces inquiétudes ? Est-ce que vous garantissez, par exemple, que le niveau de retraite des personnes qui touchent l'allocation sera maintenu.
Je dis déjà qu'il a été fait le choix, et c'était une promesse du candidat qui a été tenue, c'est de revaloriser le pouvoir d'achat des personnes en situation de handicap. L'allocation adulte handicapé a été augmentée de 90 euros par mois, 10% d'augmentation. C'est un investissement de 2 milliards
pour plus de 1 million. Aujourd'hui, elle s'inquiète parce qu'il y a une nouvelle allocation qui est réorganisée.
Le président, justement, a tenu à recevoir quelques associations il y a deux jours pour leur dire, mais attendez, vous n'imaginez pas quand même que justement nous avons absolument voulu sanctuariser cette allocation adulte handicapé, plus de 2 milliards d'investissements, il n'est pas question, et ça a toujours été dit et redit, qu'il n'y aurait une baisse quelconque des revenus des personnes
mais
en situation de handicap.
Mais sur le sujet de la retraite des personnes.
Pareil, la retraite, le nouveau système.
Ce matin, vous dites, elles seront garanties.
Le nouveau système.
Ils ne seront pas perdants.
Et bien sûr que non, qu'ils ne seront pas perdants, puisqu'on va simplifier l'accès, justement. On veut pouvoir avoir une retraite progressive, peut-être dès 55 ans. Pour
donc
justement,
une retraite anticipée avec des critères revus ou pas ?
La retraite anticipée, elle était déjà. Elle est sanctuarisée, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le maintien dans l'emploi. Parce que le handicap survient en cours de la vie. Et qu'à partir, en moyenne, à partir de 40 ans, on a justement des baisses d'activité à cause de son handicap ou de sa problématique. Eh bien ça, nous voulons pouvoir travailler là-dessus, dès 55 ans, pouvoir avoir en même temps une retraite anticipée, une réduction de son temps de travail et profiter de sa retraite. Donc moi, je garantis aux personnes handicapées qu'on est à la tâche pour leur garantir justement une amélioration. Et c'est tout l'enjeu de cette retraite universelle, beaucoup plus de solidarité et donc prise en compte des spécificités des travailleurs en situation de handicap.
On se retrouve avec Sophie Cluzel pour savoir si La République En Marche veut dire la retraite en moins.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
On se retrouve pour la dernière partie de ce grand rendez-vous avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap. Regardez cet extrait donc, de la tribune publiée par le Huffington Post par Bernard Cazeneuve, qui estime que l'intérêt général commande, lui, le retrait de la réforme. Voilà ce qu'il dit. Le projet de l'exécutif est vacillant car une réforme ne peut reposer sur un brouillon qui a fini par engendrer partout la défiance. Donc des mots très forts. Qu'est-ce que vous lui répondez à Bernard Cazeneuve ?
Je réponds que toute réforme génère des inquiétudes. Mais je voudrais quand même rappeler un petit peu ce qu'on nous avait prévu aussi, tous ces Cassandres qui disaient que ça serait une catastrophe. Prenons par exemple la réforme du prélèvement à la source. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle ce qu'avait dit Wauquiez, Mélenchon, en disant « bombe à retardement, ça sera une catastrophe, enlever, retirer cette réforme qui va faire de l'injustice, que les Français comprennent pas ».
Il y avait des inquiétudes sur la faisabilité technique, un éventuel bug.
Et sur les impacts aussi, sur,
rappelez-vous, Mélenchon. Là, on parle de pouvoir d'achat, donc, d'avenir.
C'était pareil sur le prélèvement à la source.
Mais là, les mots quand même sont très forts, Bernard Cazeneuve, qui a quand même travaillé
maintenant
dans le même gouvernement avec Emmanuel Macron, dans le précédent quinquennat. Brouillon, défiance, exécutif vacillant. Ça cogne, là,
oui,
ça
y est,
la présidentielle, c'est parti.
Je pense qu'il oublie de dire aussi les ingrédients indispensables, l'universalité, plus de justice, plus aussi de redistribution pour ceux qui ont eu des carrières hachées, pour les femmes, pour les agriculteurs. Il faudrait quand même aussi avoir les deux pendants de cette attitude. Et encore une fois, je pense que arrêtons de dramatiser en permanence et essayons de construire ensemble. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui anime aussi
Nicolas Barré,
le député de la majorité.
Justement, il y a un certain nombre de populations comme les enseignants, les personnels soignants, les avocats, certaines professions libérales qui, sur ce sujet de la réforme des retraites, sont quand même en rupture par rapport à ce que propose l'exécutif. Comment les faire revenir, comment les convaincre, sachant qu'une partie de ces professions figurait parmi les soutiens du président de la République, notamment les professions libérales?
C'est dialogue, c'est dans le dialogue, hein. C'est justement tout ce qui est en cours en termes de concertation.
Non mais là, ils
c'est
travailler. Pas, là, ils sont très en colère, là, le dialogue,
oui, mais
là,
ils
ça
sont
marche
pourtant,
pas. Là.
Ils sont pourtant ils aussi...
On nous a fait le coup du dialogue, ça marche pas.
Ils sont pourtant encore autour de la table pour beaucoup. Donc c'est comme ça qu'on va arriver à
et
les convaincre.
Dans la rue.
Il y a quand même eu...
De moins en moins maintenant, quand même, excusez-moi.
Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de méthode, justement, dans le dialogue avec ces professions, ou d'insuffisant dialogue, de pédagogie insuffisante
Pédagogie indispensable, ça c'est certain, parce que c'est compliqué, parce qu'on touche à des fondamentaux, parce que ça touche chacun dans sa spécificité, donc c'est toujours anxiogène. Ça c'est certain, c'est une réforme qui est anxiogène parce qu'on a du mal à se projeter. Mais comme toute grande réforme, il nous faut tout le temps l'expliquer. Mais... Et c'est comme ça qu'on réussira, je dirais.
Sophie Cluzel, les avocats entament leur deuxième mois de grève. C'est une population particulière avec un régime autonome. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, dit, il faut savoir arrêter une grève. Vous pensez que c'est suffisant pour leur faire reprendre une activité ?
Comme plaidoirie ?
Non, mais elle ne dit pas que ça. Elle les a reçus moult fois avec le Premier ministre. Donc... il faut être aussi équilibré dans la parole. On continue à travailler avec eux. Ils sont reçus en permanence. On travaille. Donc, j'espère que justement, ça va se dénouer.
Il y aura un double langage des avocats pour vous ?
Il n'y a pas de double langage. Tout le monde est dans sa posture aujourd'hui. Donc, moi, je dis, remettons-nous autour de la table. C'est ce qu'ils font, d'ailleurs. C'est ce qu'ils ont fait. Et encore une fois, ils ont été reçus par le Premier ministre, par Nicole Belloubet. Donc,
on attend des annonces jeudi du Premier ministre en matière de pénibilité. Vous voulez peut-être un petit coup de pouce à ce sujet-là, un marqueur fort, justement pour envoyer un signal, peut-être avant les élections municipales aussi.
C'est un enjeu majeur, la pénibilité. C'est notre problème de demain. Hein. C'est un problème sociétal.
C'est le problème de votre majorité actuellement.
C'est un problème pour tout le monde, la pénibilité. Il faut qu'on essaye d'éviter la désinsertion professionnelle. C'est notre mantra. C'est comment on accompagne les entreprises à éviter sur la désinsertion professionnelle. En tout cas, sur la pénibilité pour les travailleurs handicapés, c'est bien inscrit. J'ai demandé aux associations de participer et elles y participent. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées a fait des grandes propositions. Nous y travaillons et je serai excessivement vigilante à ce que justement cette pénibilité soit un sujet majeur. Parce que qui dit pénibilité dit risque de licenciement pour inaptitude. Et c'est ce qu'on veut éviter aujourd'hui, absolument. Et c'est tout le travail qu'on fait avec les entreprises pour accompagner dans le maintien dans l'emploi, pour être vigilant, pour être en alerte avec l'ensemble de la chaîne des médecins, que ce soit les médecins de ville, les médecins professionnels, les médecins du travail. C'est comme ça qu'on y arrivera justement à travailler ce problème majeur de la pénibilité.
Au-delà de la sensibilisation forcément des populations lorsqu'on réforme et qu'on change effectivement leur mode de vie, à ce stade du quinquennat, l'état d'énervement de la situation de la société française, l'état de rupture de confiance actuellement, on le voit avec le président de la République, ça vous inquiète pas? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Est-ce qu'il faut, après les élections municipales, un tournant social, comme on dit, pour pouvoir se réaccrocher avec ces populations qui ont été avec Emmanuel Macron, qui vous disent aujourd'hui c'est fini, Macron? Qu'est-ce que vous leur dites?
Je leur dis
c'est
que
juste parce que c'est le moment du quinquennat et après ça va se calmer. C'est
non, je pense qu'il faut mettre en avant justement ces grandes réformes de justice sociale que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que le handicap est un marqueur fort, peut-être un marqueur extrêmement fort de cohésion sociale, parce qu'encore une fois, il touche tout le monde. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'ils veulent des réponses de proximité. Ça aussi, ça a été dit. Donc il faut qu'on travaille beaucoup mieux au service de l'État, au plus proche des personnes en situation de handicap, mais au plus proche de l'ensemble des citoyens. C'est tout l'enjeu maintenant de se mettre en mode exécution, s'assurer que ce que l'on a décidé, les Français le ressentent. Parce que là encore, on a du chemin à faire.
Et donc
c'est ce dernier bout de chemin que les Français ressentent tout ce qu'on a déjà mis en place qu'il nous faut travailler.
Donc ça va être mode terrain. Ça peut être utile d'organiser une convention citoyenne sur le handicap comme sur le climat?
C'est la Conférence nationale du handicap, la Convention citoyenne. 500 personnes issues de la citoyenneté. On a fait une grande consultation avec MEC.org. Les résultats seront là. Les citoyens vont faire des propositions au ministre, au président de la République qui les a entendus. C'est ça la Convention citoyenne. C'est comme ça que je travaille, moi, depuis 2 ans et demi, sans arrêt de consulter, travailler avec les associations, avec les personnes elles-mêmes, faire monter justement les propositions du terrain, parce que dans les territoires... Le tous concernés, tous mobilisés, c'est déjà une réalité. On a 500 labellisés qui vont venir présenter ce qu'ils ont déjà fait concrètement sur le terrain pour changer la donne. Donc c'est vraiment donner la parole aux personnes avant tout.
Sur les divisions qui nous minent, comme dit le président Macron, Damien Fleurot.
Oui, Emmanuel Macron qui a dit ces jours-ci être revenu sur ses positions et qui prépare une intervention sur les dangers du communautarisme. Alors on ne sait pas exactement quand, mais peut-être dans quelques jours. Il veut mêler ce sujet aux enjeux d'un islam politique qui veut faire du séparatisme. Il était temps qu'il s'en empare, le président de la République, de ce sujet-là.
Il en parle souvent, donc laissons-lui justement...
Mais sans discours, pour l'instant.
Vous avez dit vous-même, dans quelques jours, donc laissons le temps au temps et il va pouvoir s'exprimer. Mais je pense que oui, c'est important. on nous le dit, hein, partout sur les territoires. Il faut que ce vivre ensemble il soit une réalité, qu'on ne soit plus en opposition permanente. Donc,
Vous avez le discours, effectivement, du vivre ensemble. Mais regardez, le thème qui s'est imposé depuis maintenant 2 ans pour qualifier la société française, c'est l'archipel. C'est la France disloquée. C'est encore là maintenant les trois France qui ne s'écoutent pas. Après 2 ans et demi de macronisme, est-ce que vous n'avez pas, au fond, peur que ça fasse le lit de l'eupénisme?
Je pense que le danger, ce n'est absolument pas le macronisme. Hein. C'est justement cette alliance du populisme très fort des deux extrêmes. Donc c'est ça le danger. C'est plutôt Mélenchon qui va faire élire Marine Le Pen. Vous voyez, moi, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. En revanche, sur les territoires, cette fracture, elle est très, très variable d'un territoire à l'autre. Que ce soit dans les territoires ruraux, de montagne ou les territoires urbains ou d'agglomération, elle est très différente. Elle est ressentie de façon extrêmement différente. Pour autant, il faut qu'on ait les bonnes réponses appropriées. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille un peu de façon différenciée sur les territoires, qu'on organise ces communautés du vivre ensemble. Ce n'est pas des mots vains, c'est comment je travaille concrètement ensemble. Vous l'avez dit tout à l'heure avec l'éducation nationale, les associations, le médico-social. C'est comment dans les territoires, avec l'emploi, le service public d'insertion professionnelle va être au plus près des besoins des personnes. Comment je repère ceux qui sont
profond qui résiste au changement. Est-ce que vous sentez, parce que vous l'avez dit au fond durant cette émission, les blocages des conservatismes, de l'administration qui ne veut pas de changement. Est-ce que pour vous, c'est un enjeu de les faire, de faire bouger, de faire lever ces freins?
Je ne pense pas qu'on peut se dire qu'ils ne veulent pas de changement. C'est que parfois, ils ne savent pas comment faire. Parce que c'est des mondes qui ne se connaissaient pas ou qui se connaissaient mal. Et moi, dans mon domaine, j'ai besoin de les faire travailler ensemble. Mais c'est depuis 2 ans et demi, on ne fait que ça, de travailler ensemble. Tout le monde se met autour de la table. Vous avez le chef d'entreprise qui se met autour de la table avec une association qui va lui dire comment cette personne elle a besoin d'être aidée. Et on découvre en fait qu'il y a des ressources locales importantes. Donc c'est travailler ensemble au plus près des territoires. C'est tout l'enjeu de la Conférence nationale du handicap. C'est qu'enfin, on va se mettre autour de la table. L'Association des départements de France avec Dominique Bussereau, l'ensemble des associations et l'État. Et on va dire qu'on a une responsabilité partagée. Et ben, je pense que ce modèle, c'est le bon. C'est celui qui est pragmatique, qui veut des résultats et surtout qui veut des résultats au plus près des Français.
C'est s'attaquer au conservatisme, en quelque
c'est
sorte.
C'est s'attaquer, en fait, aux silos qu'on a mis en France selon les politiques, parce qu'on a été chercher des financements qui étaient dans un tuyau administratif. C'est ça qui nous bloque. Et c'est ça qu'on est en train de changer. Et je pense que le handicap est une politique vraiment très pragmatique pour pouvoir faire changer ce genre de choses.
On a le sentiment, lorsqu'on regarde effectivement la façon dont les Français perçoivent aujourd'hui l'action de l'exécutif, on en parlait encore tout à l'heure, mais au fond, la réponse était, on n'est pas satisfait. Après 2 ans et demi au pouvoir, le président Macron qui a du mal à être compris par les Français, c'est uniquement un problème de communication, il ne parle pas assez, c'est normal parce qu'on est à 2 ans et demi, ou au fond, cette méthode qui était celle du volontarisme, de on va tout changer, on va bouscule trop les Français et c'est trop rapide pour eux.
Bien sûr que ça a bousculé, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Mais ce qui est important maintenant sur cette deuxième période, c'est de pouvoir accompagner tout ce que l'on a fait. Parce que, encore une fois, ça ne se ressent pas auprès des Français. Excusez-moi, je vais vous donner un exemple très concret. Je donne des droits à vie. Des droits à vie pour les personnes. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Plus besoin de dire que vous êtes trisomique, aveugle, etc. Vous avez votre allocation à vie. Quand je me déplace, parce que j'ai fait plus de 50 permanences citoyennes dans les territoires au sein des MDPH, eh bien, à Paris, par exemple, c'est 2%. Dans le Loiret, c'est 60%. Comment vous expliquer que les Français sont aussi inéquitables dans le destin que l'on a en France aujourd'hui? Donc ça, c'est mon rôle. C'est cette équité territoriale que je veux mettre en application. Et c'est tout l'enjeu de cet accord de méthode complet.
Pessimiste avec un président jeune, mondialisé, volontariste, polyglotte, que le monde entier regarde. Pourquoi les Français restent encore aussi pessimistes, selon vous, pour conclure?
Je pense qu'il y a aussi une façon très anxiogène de présenter les choses. Peut-être qu'il nous faut travailler différemment.
La faute des médias?
Non, je n'ai pas parlé des médias.
Non,
la nôtre, collectivement. On a une responsabilité collective. Il faut qu'on arrête de se dire ça. Les médias, l'exécutif, on est tous dans la même galère de pouvoir expliquer correctement les choses et de pouvoir les expliquer aux Français. Voilà. C'est une responsabilité collective.
Merci, c'était le grand rendez-vous de Sophie Cluzel. On peut retrouver cette émission, ce podcast. À dimanche.